collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Que savent les Européens de l'Inde en 1500 ? Pas grand-chose, nous dit Sanjay Subramaniam en ouverture de son cours du 2 mai 2016 sur l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle. Depuis sa chaire d'histoire globale de la première modernité, l'historien polyglotte né à New Delhi, qui se partage entre l'Université de Californie à Los Angeles et le Collège de France où les professeurs invités depuis 2013, nous entraîne à la suite des Portugais à leur arrivée en Inde. Sanjay Subramaniam nous met au cœur de la fabrique d'un savoir pas toujours très précis ni très sûr, mais au service de la construction d'une histoire et d'une approche ethnographique de l'Inde qui passe par l'oral et par d'autres langues comme l'arabe et le persan pour communiquer au XVIe siècle. Dans sa leçon inaugurale rediffusée cet été, Sanjay Subramaniam soulignait que les historiographies se mettent clairement en conversation entre 1580 et 1620. Dans une interview donnée aux Inrecuptibles en 2015, à propos de son approche de l'histoire globale, il remet en question les approches limitées géographiquement. « Mon parti pris, dit-il, c'est la méfiance contre l'insistance trop lourde sur les aires culturelles. Le modèle de l'histoire connectée s'est forgé contre le modèle des aires culturelles. Cela ne veut pas dire que, par exemple, je ne fais pas l'histoire de l'Inde, mais je refuse d'être cantonné par l'histoire de l'Inde. C'est pour cela que j'ai parlé d'histoire connectée. » On m'a dit que ça ne sonnait pas très bien en français, que cela risquait de laisser perplexe beaucoup de gens. C'est pour cela qu'on a choisi le terme « histoire globale » pour ma chaire au collège. L'historien reste attaché à sa liberté de mouvement au service d'une histoire décloisonnée. L'apprentissage des langues étrangères de rencontre dans cette histoire connectée où les hommes et les biens circulent beaucoup, qu'ils soient marchands, diplomates, missionnaires, soldats ou renégats, lui semble incontournable pour remonter aux sources tamoules, arabes, persanes, et portugaise des textes. Cette approche multilingue correspond à ce monde en réseau où l'on va d'une culture à l'autre. Dans cette leçon, il s'attache aussi à l'apparition des mots pour décrire le monde indien, la pagode en 1500 et à leur usage, le terme loi, employé tout d'abord et avant celui de caste, qui deviendra un concept maître à la fin du XVIe siècle. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle, 2 mai 2016.
Où commencer ? Il y a bien sûr des ouvrages qu'on ne peut pas éviter dans cette discussion. Et je vais donc au moins, au départ, toucher un certain nombre de questions qui sont soulevées dans ces ouvrages. Il y a des textes ici, bien sûr, qui sont assez connus ici en France. Le texte donc d'Edward Said, l'orientalisme, écrit à la fin des années 70, est un ouvrage incontournable pour tous les savants qui ont envie d'aborder des questions comme la représentation, les projections, les collections et les rapports entre le monde européen et le monde non européen. Bien sûr, c'est un livre controversé. C'est un livre qui a été beaucoup critiqué, et avec raison. Mais en même temps, la question sur laquelle je vais revenir, c'est de savoir si, dans le débat qu'il y a eu, on n'a pas rejeté d'une façon trop forte le livre de Saïd. Le livre de Saïd, on le sait, a beaucoup de défauts. Je vais mentionner au moins trois. Premièrement, c'est un livre qui, malgré le fait qu'il traite soi-disant de l'Orient, traite exclusivement du Moyen-Orient. Donc, il y a très peu sur l'Inde, il y a très peu sur l'Extrême-Orient, Donc, de ce point de vue-là, c'est un livre qui laisse à désirer. Deuxième point, l'ouvrage de Saïd ne traite pas l'Europe dans son ensemble. Ça a été dit, notamment par les savants allemands, qui ont trouvé qu'il y a très peu, par exemple, sur l'Allemagne, ou même sur les Pays-Bas, ou sur d'autres régions, tout est centré essentiellement sur la France et l'Angleterre. Deuxième défaut. Troisième chose, bien sûr, et ça, c'est pas une reproche très sérieuse, mais néanmoins, M. Saïd était pour l'essentiel un savant littéraire. C'est pas quelqu'un qui était pour l'essentiel un historien. Il a jamais fait un travail d'archives. Il a donc jamais abordé le genre de questions qu'on va aborder dans les semaines à venir, nous. Mais néanmoins, c'est un livre qui a eu énormément d'influence, qui a soulevé des polémiques, qui a obligé un certain nombre de départements aux États-Unis même de changer leur nom. Donc, des départements qui s'appelaient autrefois département des études orientaux, maintenant, ils s'appellent études asiatiques ou du monde non européen ou des choses comme ça. Donc, même l'orientalisme, c'est devenu, dans certains cercles, presque un gros mot qu'on ne pouvait pas prononcer. Il suffisait même de dire que quelqu'un était orientaliste pour, en quelque sorte, dénigrer son travail. L'autre livre est un livre qui a été publié presque au même moment que le livre de Saïd. Sur certains angles, c'est un livre qui est beaucoup plus savant, beaucoup plus intéressant même pour un certain nombre de questions, mais ça n'a pas eu le même succès ou le même retentissement. Ça n'a pas été traduit, par exemple, dans maintes langues européennes et non européennes. Mais le livre de Parthometer, néanmoins, est très important pour nous et pour le propos de ces semaines. C'est un livre essentiellement donc, de l'histoire de l'art, écrit par un savant indien, mais qui a fait ses études en Angleterre avec Ernst Gombrich, donc qui a une lignée, disons, assez respectable dans l'histoire de l'art. Et lui a essayé, comme vous démontre le sous-titre de son livre, d'aborder le problème de l'histoire des réactions européennes à l'art indien. Alors, il faut encore savoir qu'est-ce que c'est l'art indien, comment définir les limites de ce qu'est l'art indien, mais en tout cas, c'est un livre qui, pour moi en tout cas, est très important parce qu'il aborde toute une série de questions et il aborde très sérieusement le problème du savoir européen sans caricaturer pour autant ce qui est le rapport entre savoir et pouvoir, qui est un reproche qu'on a souvent mis à l'ouvrage de Saïd, c'est-à-dire qu'il y a un peu un aspect trop facilement foucauldien dans l'ouvrage et l'analyse d'Edward Said. Le troisième livre, lui aussi, n'a pas été traduit ni en français, ni en d'autres langues européennes. C'est un livre écrit sous l'influence directe d'Edward Said par un anthropologue et un historien de l'Inde à l'Université de Chicago, Ronald Inden. C'est donc « Imaginer l'Inde ». Et là, il fait le procès de l'orientalisme jusqu'à nos jours. Donc, en gros, il dit que lui-même, M. Inden, quand il était jeune, il était orientaliste, et il a envie de battre sa culpe à cause de ça, et il nous explique comme quoi l'étude de l'Inde en Occident, c'est plus ou moins un complot. Donc, que tout est fabriqué de toutes pièces, tout est fait essentiellement pour servir les buts du pouvoir occidental, que ce soit l'Empire britannique, que ce soit l'Empire américain de l'après-guerre. Donc, vous voyez que là, on est dans le cadre d'une espèce de saïdianisme qui est allé au-delà de toute raison et qui est devenu donc une version presque, moi je dirais, caricaturale de la thèse de Saïd même. Alors, par la suite, on a bien sûr eu des débats, on a eu des réponses. Je vais revenir sur un certain nombre de ces réponses. Et en ce moment, on est donc, je dirais, si je peux faire la comparaison, c'est le mi-temps et on est toujours à égalité. Donc, il y a les pro-saïdiens qui continuent à produire leurs livres, surtout dans les départements de littérature. De l'autre côté, il y a les anti-saïdiens qui ont envie de nous dire comme quoi, en fait, le savoir occidental, c'est un savoir positif, c'est un savoir qui n'est pas lié d'une façon essentielle avec les empires ou avec les jeux de pouvoir. Et donc, on est toujours, chaque année, il y a des livres qui vont sortir des deux côtés de cette affaire. avec une polémique donc très forte à la fois, comme je vous ai dit, pro-saïdienne et anti-saïdienne. Mais alors, comment et où commencer si on a envie d'aborder cette question de l'Europe et de l'Inde? Bien sûr, on a pu commencer, par exemple, dans l'Antiquité grecque, ça a été fait, même dans cette maison. Le livre de Pierre Briand, qui est sorti, Alexandre des Lumières, où il traite donc la façon dont, à la fois, les Grecs, à l'époque d'Alexandre, ont abordé l'Inde, mais aussi, par la suite, comment les générations successives ont reconstruit l'image d'Alexandre. La version anglaise de ce livre va sortir dans quelques mois et il a un titre peut-être plus parlant que le titre en français. Donc ici, en français, c'est « Alexandre des Lumières ». En anglais, c'est « The First European », le premier Européen. Et donc, dans cette version anglaise du livre, M. Briand essaie de nous démontrer comment, à l'époque des Lumières, en fait, on a reconstruit le personnage d'Alexandre pour démontrer comme quoi il était le premier Européen, ce qu'il était, bien sûr, pas du tout dans sa propre tête. On a pu commencer là, ou on a pu commencer, par exemple, en allant plus loin, par exemple, au XIIIe siècle, avec les quelques textes qu'on a écrits par des Européens, et notamment par des Italiens. Marco Polo, donc un texte qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque et qui, au XVe siècle, restera une référence, donc tout ibérique, qui a envie de savoir quelque chose sur l'Inde au XVe siècle, est obligé de passer par Marco Polo. Vous avez d'autres textes. Vous avez, par exemple, au XVe siècle, le texte de Niccolò de Conti, qui n'a pas écrit lui-même, ça a été refait par Poggio Bracciolini, le Poggio, le secrétaire du pape. C'est un texte relativement bref, mais que traite lui aussi de l'Inde. Et comme ça, on a donc une petite poignée de textes pour le 14e, 15e siècle traitant de l'Inde. Alors, ce qu'on sait donc, c'est qu'en 1500, les Européens savent quelque chose sur l'Inde, mais ce n'est pas grand-chose. Ils ont un savoir assez basique au niveau de l'histoire politique de l'Inde, sur ce qu'il conçoit comme la culture et les coutumes des Indiens. Et donc, c'est pour cela qu'il faut attendre la fin du XVe et le début du XVIe siècle pour arriver à ce moment quand on a une espèce d'accélération et un changement même qualitatif dans le savoir européen qui va se produire sur l'Inde. Alors donc, j'aborde les Portugais. Les Portugais, comme on le sait, sont arrivés dans l'océan Indien occidental à la fin du XVe. Et comme vous le savez peut-être, les Portugais étaient assez mal préparés pour aborder l'océan Indien occidental. Ils n'avaient qu'une langue qu'ils pouvaient utiliser au départ pour communiquer, et c'était l'arabe. Donc, si on regarde les premiers documents produits par les Portugais pour communiquer avec les gens, soit sur la côte swahili, soit en Inde du Sud, en fait, tout ça, ça se fait pour l'essentiel en arabe, avec quelques difficultés, car les Portugais ont une connaissance de l'arabe occidental, parce que leur expérience est essentiellement une expérience maghrébine, tandis que l'arabe qui se parle et qui se pratique dans l'océan Indien, c'est beaucoup plus proche de l'arabe de Machrek. Donc, il y a quelques malentendus possibles, mais néanmoins, dans la version écrite, on arrive plus ou moins à communiquer. Et voilà, par exemple, une lettre qui est échangée donc entre les Portugais et un souverain qui n'est même pas musulman, mais qui a dans sa cour en Inde du Sud quelques secrétaires ou quelques personnes qui sont capables d'écrire en arabe et de communiquer donc avec les Portugais. Donc, ce premier moment, les Portugais arrivent et ils essaient de reprendre le savoir italien qui existait auparavant. Ils essaient donc de modifier ce savoir en fonction de ce qu'eux, ils sont capables d'observer et ce qu'ils sont capables donc d'apprendre sur le terrain. C'est quoi les premiers textes donc qui on associe avec cette arrivée des Portugais? Il y a quelques textes un peu surprenants. Donc, les deux premiers textes qu'on a, qui sont des textes donc publiés, il y a un premier texte en allemand, donc écrit par Balthasar Sprenger, ou Springer, un marchand de l'Allemagne du Sud qui accompagnait les Portugais car il y avait un certain nombre d'Allemands catholiques dans les flottes portugaises, normalement liées avec les maisons commerciales de Fugger et de Welser. Et alors donc Springer, qui en rentrant en Europe, a finalement publié ce petit opuscule, Meerfahrt, en 1509. Et puis il y a un texte l'année d'après, assez célèbre, écrit par un personnage assez compliqué, assez sinistre, à la limite, moi je dirais, Ludovico di Vartema, qui lui a voyagé en Inde occidentale et en Arabie. Probablement, il s'est converti à l'islam à un moment donné. Il a été en tout cas probablement renégat et mercenaire chez les Mamelouks d'Égypte. Et puis, par la suite, il est arrivé en Inde du Sud. Alors, le texte de Vartema a eu un très grand succès, beaucoup plus que le texte de Springer, mais c'est un texte dont on doit se méfier. Parce que au moins la moitié du texte est inventée. C'est-à-dire, il raconte tout un voyage qu'il fait dans le golfe de Bengale, en Asie du Sud-Est, et on a démontré très clairement que tout cela, c'est de l'invention pure et dure. Parce que même d'un point de vue du calendrier, c'est impossible que de faire le genre de voyage qu'il raconte avec les moussons, c'est pas possible. Mais en tout cas, il nous a donné un texte qui reste assez intéressant sur plusieurs points de vue. Et encore une différence entre les deux textes, le texte de Vartema est très vite traduit dans d'autres langues, hein, et notamment en castillan, mais plus tard, dans les années 1530, en latin. Et c'est ce texte en latin qui va avoir beaucoup de succès et beaucoup de circulation dans le cadre de l'Europe. Alors, il y a aussi d'autres textes qui sont produits à l'époque, mais c'est assez curieux de voir et assez paradoxal de voir que les textes portugais de cette époque ne sont jamais publiés en tant que tels. Donc, c'est plutôt les étrangers associés avec ce moment de l'Empire portugais, car Springer était dans le cadre de l'Empire portugais en tant que marchand. Vartema, finalement, arrivé en Inde du Sud, est devenu espion et aussi spécialiste militaire pendant un certain temps. Mais ces deux textes sont publiés, l'un en Allemagne, l'autre en Italie, tandis que les deux grands textes de l'époque, écrits par des Portugais, ne sont pas publiés à l'époque quand ils sont écrits. Donc, des textes qui ont une grande importance pour nous, mais qui restaient pendant un certain temps assez, totalement inconnus du public européen parce qu'ils ont été donc gardés en forme, sous forme de manuscrits. Les deux textes en question, des textes contrastés, donc d'un côté le Summa Oriental de Tomé Pires, qui était agent commercial, apothécaire, homme très proche du roi Dom Manuel, qui a passé pas mal de temps, surtout en Asie du Sud-Est, à Malacca, mais qui a aussi passé du temps en Inde du Sud, et qui nous raconte essentiellement dans ce texte de Summa Oriental une vision du monde commercial de l'océan Indien. Il y a très peu d'observations sur la culture ou sur les cultures. En effet, tout est centré sur les réseaux de commerce et les possibilités dans le cadre commercial. Tomé Pires, comme on le sait, a fini sa vie comme envoyé portugais en Chine, où il a disparu à la fin des années 1510, dans le cadre d'une ambassade qui n'a pas eu beaucoup de succès. L'autre personnage, un personnage contrasté, c'est donc Duarte Barbosa. Lui, il est resté peut-être une quarantaine d'années en Inde, surtout en Inde du Sud. Il a voyagé un peu, mais c'est essentiellement quelqu'un qui a eu une connaissance assez forte de l'Inde du Sud. Il était donc secrétaire du comptoir portugais dans un endroit qui s'appelle Cananor ou Kannur, dans le nord du Kerala. Et il a écrit donc ce livre qui s'appelle « Livre do que viu ou viu no Oriente » de Duarte Barbosa, le livre de ce que Duarte Barbosa a vu et entendu en Orient. Écrit en 1520. Donc là, vous avez le manuscrit de Tomé Pires, et comme on n'a pas de manuscrit de l'époque, c'est une lettre de Duarte Barbosa qui a donc ici sa signature, écrit donc du comptoir de Cananor. C'est quoi la différence entre les deux? C'est une différence donc essentiellement, c'est tous les deux s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler le savoir laïque. Ils sont tous les deux des agents commerciaux. Mais Tomé Pires est assez impérialiste. Il soutient les projets impérialistes de l'expansion portugaise. Duarte Barbosa a beaucoup plus de doutes sur ces questions-là. il appartient à ce groupe qui pense que l'Empire portugais devrait être un empire assez limité, laissant beaucoup de place aux particuliers, donc au commerce des particuliers. Ça, c'est une tension entre ces deux tendances qui a marqué donc, la première moitié du XVIe siècle dans l'Inde portugaise. Alors, en réalité, ces deux livres n'auraient jamais vu la lumière au XVIe siècle si ce n'était pas à cause de cet entrepreneur-là, qui est le Vénitien Giambattista Ramusio. Donc, c'est Ramusio qui a finalement publié une version abrégée de ces deux textes, le Summa Oriental et le livre de Duarte Barbosa, dans son célèbre texte Delle Navigazioni e Viaggi, texte en plusieurs volumes qui traite du monde entier, mais il y a une grosse partie consacrée à l'Asie, dans laquelle il a donc essayé de ramasser et de traduire et de résumer tout ce savoir portant sur l'Asie et sur l'Inde, et dans lequel donc on trouve entre autres ces deux textes, mais aussi d'autres textes associés avec les premiers voyages des Portugais en Inde. Donc, vous voyez toujours que jusque dans les années 1550, les Portugais restent assez discrets. S'ils savent quelque chose de l'Inde, ils ont envie de garder ça pour eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de faire circuler ce savoir dans un cadre plus large asiatique. C'est plutôt le travail des autres, des Allemands, des Italiens surtout, qui ont donc fait répondre ce qu'on savait sur l'Inde, qu'on ne savait pas auparavant. Alors, les choses commencent à changer, on sait, déjà dans la deuxième décennie du XVIe siècle. Et ça passe, ça c'est une façon très simple de dire, ça passe par, tout d'abord par l'apprentissage des langues. Donc, on a vu que les Portugais ont commencé avec les quelques notions d'arabe qu'ils avaient, et ce n'était bien sûr pas un savoir qui était partagé parmi la plupart des Portugais, c'était essentiellement un savoir qui était gardé pour les interprètes, ce qu'on appelle les lingua, les langues, donc les lingua, les interprètes des comptoirs, mais c'est aussi quelque chose qui est souvent la spécialité des exilés qui ont passé de temps, qui ont un passé criminel, qui ont donc passé du temps en Afrique du Nord dans des circonstances un peu floues, et qui sont revenus au Portugal et donc qui sont venus en Inde ou dans l'océan Indien dans ce cadre, mais ils ont donc quand même cette connaissance et on peut tracer les carrières d'un certain nombre d'entre eux. Notamment, il y a un personnage assez remarquable du début du XVIe siècle qui s'appelle João Machado, qui est un natif de Braga, dans le nord du Portugal, et qui était parmi ses premiers interlocuteurs et connaisseurs de l'arabe. Mais petit à petit, il y a les autres langues qui vont s'ajouter à ça. Deuxième langue, le Malayalam, donc langue de l'Inde du Sud. On sait que c'est déjà pratiqué par un certain nombre de Portugais dans sa version orale, pas dans sa version écrite. Et parmi ces gens-là, par exemple, on peut compter Duarte Barbosa, je viens de parler de lui, mais il y a aussi un autre personnage assez connu qui s'appelle Diogo Pereira. Diogo Pereira qui avait comme surnom, il était connu comme O Malabar. On pensait qu'il était plus ou moins entré dans la culture locale et donc qu'il était en quelque sorte à moitié entre les deux cultures. Puis le persan qui va venir déjà à la fin des années de la première décennie, dans le cadre du golfe Persique, Afonso d'Albuquerque, qui a essayé de prendre la ville de Hormuz en 1507, a déjà à l'époque quelques interprètes, ce qu'on appelle dans la correspondance à l'époque les Kalamchi, et ces gens-là, manifestement, étaient capables de communiquer avec les gens de Hormuz en persan. Puis, il y a d'autres langues par la suite. Il y a le Konkani, qui va arriver dans le... les ressources intellectuelles des Portugais après la conquête de Goa en 1510, et bien sûr le tamoul. Et là, vous voyez un des premiers textes publiés en Inde par les Portugais, qui est la Doctrina Christã en lingua malabar tamoul. Donc, un texte avec un but religieux, bien sûr, mais vous voyez ici que c'est imprimé avec les lettres en tamoul. En bas. Donc, il y a l'apprentissage des langues, mais il faut insister sur deux choses quant à cette question de l'apprentissage des langues. C'est une connaissance qui est essentiellement une connaissance orale. Il y a très peu de gens, en fait, qui pratiquent une version de la langue écrite en aucune de ces langues, d'ailleurs, même le persan. Donc, normalement, pour tout ce qui est l'écrit, on va continuer à dépendre à la présence des autres qui sont capables de passer la version orale en version écrite. Mais cela veut dire également que les Portugais, en fait, restent assez faibles en matière de leur accès aux traditions textuelles. C'est-à-dire, tout est oui-dire, beaucoup plus que savoir qui passe par le monde donc, de l'écrit. Je passe maintenant brièvement à l'aspect visuel. Je vous ai dit qu'il y a très peu de productions imprimées par les Portugais dans la première moitié du XVIe siècle, et cela veut dire qu'il y a encore moins de productions visuel dont on peut accéder. Ça, c'est une exception. Cet index qui n'a jamais été imprimé, mais c'est un codex qui reste toujours dans les archives de la Torre do Tombo à Lisbonne. C'est une espèce d'épopée. C'est Sucesso do Segundo Cerco de Dio. C'est donc le succès du deuxième siège de la forteresse de Dieu qui a été donc attaquée. Les Portugais étaient à l'intérieur, c'était les assiégés. Les attaquants étaient donc des Ottomans et les gens du Gujarat. Dans l'imaginaire de l'artiste, vous avez le général ottoman, Khaja Safar Salmani, mais bien sûr, tout cela n'a rien à voir avec les réalités ethnographiques de l'Inde. C'est une espèce de vision qui pêche dans, par exemple, l'imaginaire qu'on aurait pu avoir des combats du monde ancien dans le genre, justement, d'Alexandre contre Darius ou des choses comme ça. Donc, même au niveau des tissus, des précisions, etc., les détails, rien n'est basé sur l'observation. Il y a une espèce d'écart entre cette vision présentée dans les peintures et le savoir qui existe en réalité sur le terrain. Alors, les choses commencent à changer à partir du milieu du XVIe. Et pour cela, il faut donc compter sur cette production soudaine qui va commencer vers les années 1540-50, des chroniques publiées. Donc, on peut compter un certain nombre de ces chroniqueurs. On aurait pu parler très longuement sur chacun d'entre eux, mais je vais me limiter à quelques observations sur deux ou trois de ces personnages. Donc, le premier qui a publié un texte d'importance portant sur l'Asie dans le monde portugais, c'est un chroniqueur non officiel. C'est Fernando Lopes de Castaneda, qui a donc publié la première partie de son texte, Historia do Descobrimento e Conquista. Il était quelqu'un qui avait passé du temps en Asie. Il n'avait aucune connaissance qu'on sache d'une langue asiatique. Mais il était lié avec un certain nombre de gouverneurs. Il a eu accès à des archives officielles. Souvent, il copie des lettres et la correspondance officielle dans son texte. Et ce texte-là a tout de suite eu un grand retentissement, à la fois au Portugal et en Espagne. Et puis, ça a aussi été traduit dans d'autres langues comme l'anglais. Alors, Castaneda, si on regarde son texte, parle sans cesse de son expérience d'homme de terrain. Donc, il nous dit en effet que comme il a beaucoup vécu et beaucoup souffert, donc c'est en quelque sorte à cause de ça qu'il faut croire en sa vérité. Sa vérité donc vient de en quelque sorte de cette souffrance. C'est une espèce de raisonnement de que j'y étais, j'ai vu, j'ai souffert et voilà donc mon texte. Et il était conscient du fait que ce projet qu'il avait était en concurrence avec un projet qui était déjà en cours, qui était la chronique officielle. Donc, il y avait des bruits qui couraient, tout le monde savait qu'il y avait une chronique officielle qui était en préparation, mais qui n'était pas encore sortie. Et d'ailleurs, Castaneda, on a l'impression qu'il a voulu faire plus vite que le chroniqueur officiel pour pouvoir capter une grande partie du marché. Et le chroniqueur officiel, donc, c'est le deuxième que vous voyez ici, João de Barros, homme de la Renaissance portugaise, très savant. Et lui, il a une façon de fonctionner qui est tout à fait autre. Et c'est une espèce de contraste entre deux méthodes sur lesquelles on va revenir maintes fois. Donc, vous voyez, Castaneda, c'est l'homme de terrain qui est parti en Asie, mais sans aucune connaissance de langue asiatique, même quand il est rentré. Baruch, par contre, c'est le savant du cabinet. Il a peut-être fait un voyage dans sa vie en Afrique occidentale, mais même sur ce voyage-là, on n'est pas tout à fait sûr. Mais pour l'essentiel, il était le chroniqueur, mais il était aussi le chef de ce qu'on appelle la Maison de l'Inde, Casa de India. Donc, il était nommé pour contrôler le commerce, les allées et les venues, et en tant que chef de cette maison, il avait accès à toute une série de personnes et aussi toute une série de possibilités. Donc, on sait que Baruch avait déjà commencé à concevoir son plan depuis les années 1530. Et il voulait faire quoi? Alors, stylistiquement, il se base sur Tite-Liv. Mais l'idée de Baruch était qu'il fallait avoir une base textuelle pour construire son histoire. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il a une conception assez particulière parce qu'il commence ses décades avec la conquête musulmane de la péninsule ibérique. Donc, il commence avec, dans le 7e siècle, avec l'arrivée des musulmans, parce que pour lui, c'est là qui explique pourquoi les Portugais sont allés en Asie. C'est comme une espèce de réaction. Il y a donc conquête, reconquête, et puis expansion, qui est en quelque sorte une continuation de la reconquête. Mais comment faire pour savoir des choses sur l'époque musulmane? Il y a un problème là. Il y a un problème parce que la reconquête du Portugal a été terminée vers 1250. Il n'y avait pas de bibliothèque de textes arabes au Portugal. Il n'y avait presque personne qui parlait l'arabe, ou qui, en tout cas qui pouvait lire l'arabe au Portugal. Donc la situation était beaucoup plus faible qu'en Espagne, par exemple. En Espagne, encore, bien sûr, au XVe siècle, il y avait des arabisants, tandis qu'au Portugal, il en avait très, très peu. Alors, donc, Baruch a décidé qu'il fallait tout d'abord envoyer des gens chercher des textes en Asie. Donc, vous voyez, c'est une autre stratégie par rapport à tous les autres. Donc, ça ne passe pas pour l'essentiel par le savoir du terrain. On n'est pas censé être en Asie pour pouvoir écrire sur l'Asie. C'est une autre stratégie. Mais le problème restait toujours de savoir comment faire avec ces textes. Et là, Baruch, on sait, avait une autre idée, c'est-à-dire il fallait aussi faire venir des esclaves de l'Asie, des esclaves interprètes. Donc, pour chaque corpus de texte, on aurait donc un interprète dans la maison de Baruch faisant le travail de traduire ces textes venant de l'Asie. Quel genre de texte, donc? On sait que Baruch avait accès à un certain nombre de textes en arabe, portant pour l'essentiel sur la côte swahili, sur la côte orientale de l'Afrique. Mais en fait, Baruch a misé beaucoup plus sur le persan. Et il a décidé qu'il fallait monter une collection en persan. Et on connaît d'ailleurs un certain nombre de textes qu'il a. Et on connaît par exemple un texte qu'il avait fait venir, un texte qui reste très important parce qu'il le cite maintes fois dans son livre, et ça, c'est le texte de la fin du XVe siècle, Rawdat as-Safa de Mir Khand. C'est une grande chronique timourite qui porte donc à la fois sur l'histoire islamique et sur l'histoire du monde timourite jusqu'à la fin du XVe siècle. Mais on sait aussi qu'il avait probablement un texte qui s'appelle le Zafarnama de Yazdi, c'est-à-dire c'est une espèce de chronique de Tamerlan. Et il y a un certain nombre de textes qui sont beaucoup plus difficiles à identifier, qu'il cite de temps à autre dans le texte. Là, vous voyez donc une stratégie assez particulière, assez différente, par exemple, si on fait la comparaison avec un autre chroniqueur qui vient après lui, Gaspar Correia, qui lui-même, d'ailleurs, était dessinateur. Ce sont des dessins qu'il a faits, des vice-rois et aussi de quelques forteresses. Correia, qui était donc aussi un homme de terrain, très, très inexact dans tout ce qu'il a écrit. Si vous voulez faire la comparaison entre les dates des événements dans Correia et tous les autres chroniqueurs, il y a toujours un écart. Il est toujours quelque part et les autres sont ailleurs. Mais aussi, il confond tout. Il confond les hommes, les noms de personnages, les noms des lieux. Il confond la géographie de l'Asie. Donc, en quelque sorte, il est devenu un personnage héroïque pour les historiens du XIXe siècle qui ont trouvé que dans cette confusion, il y avait, disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui une voix subalterne. Quelqu'un qui était bordélique et donc qui était authentique. Et voilà, donc, ça, c'était une espèce de réinterprétation romantique de l'œuvre de Correa. Mais on peut faire cette distinction assez nette dans les deux extrêmes. On a Correa d'un côté, on a Baruch de l'autre, Baruch, homme de cabinet, très précis, très correct dans ce qu'il raconte. Il a une conception très claire de la géographie de l'Asie, même s'il n'est jamais... Allez, et voilà donc les différentes possibilités déjà qui commencent à se dessiner dans les années 40, 50, 60 du siècle. Mais vous voyez ici comment travaille Baruch. Il travaille donc en accumulant des textes et avec cette espèce, il est une espèce d'homme araignée qui envoie des gens, qui a ses réseaux, qui fait venir du savoir et qui va donc faire lui-même la synthèse de ce savoir venant de l'Asie en langues asiatiques ou, dans ce cas précis, en langue portugaise.
Le Collège de France et France Culture vous présente Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde, 16e-18e siècle, en mai 2016.
Maintenant, on passe au deuxième aspect, parce que Baruch était essentiellement concerné avec l'idée de produire une chronique classique, avec une chronologie. Donc, à chaque fois que les Portugais arrivent quelque part, il va nous expliquer l'histoire du royaume où les Portugais sont arrivés. Donc, par exemple, les Portugais arrivent à Hormuz, il va nous faire trois chapitres sur l'histoire de Hormuz avant l'arrivée des Portugais. Les Portugais arrivent en Inde du Sud, il fait la même chose. Ils sont arrivés en Chine, il nous fait la même chose. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de version interactive à chaque fois que les Portugais sont arrivés quelque part. Au lieu de nous dire il y avait des gens là-bas, très vague, il explique quand même le contexte dans lequel les actions ou feitos des Portugais vont avoir lieu. Mais en même temps, dans ces écrits déjà du milieu du XVIe siècle, on voit émerger une autre vision. Donc on a la vision, si vous voulez, historique, qui est la vision de ces chroniqueurs, mais là aussi, on a aussi une autre vision, qui est une vision, disons, tout à fait ethnographique. Et c'est peut-être trop facile de séparer les deux, il y a bien sûr des aspects qui se croisent, mais néanmoins, il faut quand même garder en tête qu'il y a cet autre aspect-là, vision ethnographique. Cette vision ethnographique est centrée sur un certain nombre de topoi, de topiques. Hein. Donc, et là encore, on peut demander en quelle mesure ce sont des choses qui ont été traduites et en quelle mesure ce sont des choses qui ont été inventées par les Portugais. Donc là, on est encore dans ce débat autour de l'Orient imaginé par rapport à l'Orient donc traduit, si vous voulez. Alors, je vous donne quelques exemples sur lesquels je vais donc revenir maintes fois. Déjà, dans ces textes du milieu du XVIe siècle, on a une chose qu'on connaît très bien, c'est l'image de Sati, de la Sati. Donc, la crémation de la veuve dans la société indienne, surtout ce qu'on appelle donc la société des gentils. Donc, on est très clair que ça ne se pratique pas tellement chez les musulmans en Inde. On sait qu'il y a des musulmans et il y a ces non-musulmans qui sont des gentils. Et c'est donc une pratique des gentils. Première chose, on n'utilise pas le mot sati à l'époque, mais néanmoins, c'est ce que les Britanniques plus tard vont appeler sati. Deuxième chose, ça c'est une institution, et c'est un mot qui est inventé par les Portugais, mais c'est une transformation. On le voit déjà dans la deuxième décennie du XVIe siècle, c'est le mot « pagode ». Le mot « pagode » n'existait pas dans les vocabulaires des Européens avant 1500. Et si on regarde l'étymologie de ce mot, en fait, on sait que le mot « pagode » vient du mot tamoul, « pagavati ». Et « pagavati » vient du mot sanskrit « bhagavati ». Vous voyez qu'on n'a pas d'aspiré en tamoul. Donc, il y a une légère différence. Vous voyez que c'est, en fait, le même mot. Il y a certains textes, par exemple, du début du XVIe siècle, ou même chez des gens comme Duarte Barbosa, parfois, on va utiliser le mot « temple »,« templo ». Mais très vite, on va éviter ce mot pour ne pas faire la confusion entre les temples en général et ces... ce qu'on appelle parfois aussi les maisons des idoles, casa dos idoles. Donc, on va donc commencer à utiliser ce mot, et ce mot devient, à force de répétition, une espèce de topos dans le discours de l'époque. Il y a aussi cette idée qui commence à apparaître, qui est le char de pagode qui écrase les fidèles. Donc, l'idée qu'il y a un char, qu'on tire, et il y a des fidèles qui se jettent sous le char et pour mourir et pour rentrer directement à leur paradis. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans les années 30-40. Et ici, vous avez cette image qui correspond aux années 1540-50 où on a déjà cette idée. Et finalement, il y a aussi quelque chose que je vais rapidement mentionner, c'est la cérémonie de crochet. Donc, cette idée des hommes qui se font pendre comme ça. Et c'est une espèce de sacrifice qu'on fait aux pagodes, et là encore vous avez l'image qui correspond à ça. Alors, qui sont donc les acteurs de ce savoir-là? On a vu qu'il y avait les chroniqueurs, mais les gens qui vont produire cet autre savoir, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, qui est aussi un savoir, comme je vous ai dit, un savoir ethnographique, il y a une diversité de ces gens. Et donc, chacune de ces catégories d'acteurs a aussi ses particularités. Bien sûr, il y a les missionnaires, les franciscains qui étaient là avec les premiers Portugais, déjà peut-être pas dans le premier voyage, mais certainement dans le deuxième voyage de Pedro Álvares Cabral, il y avait des franciscains, et puis les jésuites qui sont venus dans les années 1540, et puis les augustins qui sont aussi importants, surtout à partir dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc et en plus, il y a les prêtres laïcs, et chacun d'entre eux vont produire des écrits, des réflexions, etc. Deuxième catégorie, c'est le savoir de ce qu'on appelle les casados. Ce sont qui? Ce sont des colons basés en Inde, venus du Portugal, mais qui ont passé beaucoup de temps en Inde. Parmi ces gens, on peut compter quelqu'un comme Duarte Barbosa. C'est un exemple d'un casado. Et qui passent du temps, qui peuvent parfois apprendre une langue indienne pour communiquer oralement ou pour communiquer avec ses esclaves ou des choses comme ça. Il y a très peu qui ont une connaissance d'une langue, une tradition écrite indienne, mais il y a parfois des exceptions. Mais néanmoins, ils sont des gens qui détiennent quand même un savoir assez considérable et qui deviennent parfois les informateurs des chroniqueurs. Donc il faut aussi imaginer qu'il y a une espèce de va-et-vient entre ces deux mondes. Il y a en troisième lieu ce qu'on appelle, on peut appeler les passeurs et les renégats, les gens qui sont instables dans leur lieu de résidence, parfois à l'intérieur de l'Inde portugaise, parfois à l'extérieur. Le plus célèbre probablement de ces cas du milieu du XVIe siècle, c'est la personne qui a écrit ce texte-là, Garcia de Horta, ou comme on l'appelait à la fin du XVIe siècle dans les textes français, M. Garcia du Jardin, qui était un médecin juif portugais, mais qui est devenu nouveau chrétien, comme on le dit, arrivé en Inde dans les années 1530. Il est resté là probablement une trentaine d'années. Il avait une maison dans l'île de Bombay, et que lui est passé souvent entre le monde portugais et le monde des musulmans, parce qu'il était souvent médecin dans les cours des sultans musulmans de l'Inde. Et avec tout ce savoir, il a su publier ce texte qui, d'ailleurs, par un miracle, a pu passer l'Inquisition et qui a été publié donc en 1563 à Goa par un imprimeur allemand. Alors, donc, il y a des gens comme ça, Et il y a aussi quelque chose sur lequel je vais juste dire un mot et revenir plus tard, c'est-à-dire qu'il faut savoir que la plupart de ce savoir se base dans le cadre de l'Inde Sud. La plupart de ces textes-là parlent essentiellement de la péninsule indienne et de l'Inde Sud. Il y a relativement peu de choses sur l'Inde du Nord. Donc l'ethnographie et la société qui est décrite est essentiellement la société de l'Inde du Sud. Et ça va avoir donc quelques implications pour nous. Juste un mot sur les Khazars. Il faut dire que ces gens-là étaient basés dans les forteresses et les villes portugaises côtières de l'Inde. On a pu reconstruire pour un cas précis, c'est-à-dire le cas de Goa. Il s'avère qu'on a un document sur les impôts sur richesse qui ont été prélevés sur les Khazars de Goa pour quelque chose qui est une espèce de travail public en 1535. Là, vous voyez un peu le profil de ces Khazars. En fait, il en avait, ça c'est leur richesse en pardage. Il y avait très peu de gens qui étaient riches. La plupart d'eux avaient des fortunes assez modestes. Ici, bon, avoir une fortune de 100 pardages, ce n'était pas grand-chose. Donc, en fait, c'était une espèce de petite bourgeoisie, en réalité, des colons habitant dans ces villes. Il y avait quelques-uns, peut-être une dizaine ou une quinzaine à l'époque, qui avaient une fortune beaucoup plus considérable. Mais néanmoins, ils avaient parfois un savoir qui dépassait leur richesse matériel. Pour aller vers un certain nombre de catégories qui sont importantes pour nous et qu'on va continuer à discuter dans les semaines à venir, alors il faut savoir que dans ces textes ethnographiques, on a ces topoi qu'on a décrits. Donc vous voyez la veuve qui se brûle, les pagodes, etc. Mais il y a aussi des catégories de pensée. Et bien sûr, quand on aborde cette question, on revient forcément sur la question de caste. Et là, si on regarde ces textes, on a un constat un peu surprenant. Et on constate qu'au début du XVIe siècle, les Portugais utilisaient très rarement le mot caste. Donc, pour l'essentiel, si on regarde les textes des années 1510, 20, 30, le mot caste, je ne dirais pas qu'il apparaît absolument pas, mais c'est très rare. Ce qu'on trouve beaucoup plus souvent, c'est un autre mot, c'est le mot « lei », qui veut dire « loi ». Donc, par exemple, en parlant des catégories sociales, on dit qu'il y a des gens de cette loi ou d'autres lois. On parle, par exemple, tout simplement de « gente », de « gens ». Et c'est que dans les années, je dirais, 40, qu'on arrive à utiliser assez souvent le mot « caste », « caste ». Avant ça, c'est un mot qui peut apparaître. Par exemple, je pense que chez Duarte Barbosa, le mot « caste » apparaît deux fois dans son texte. Chez Tomé Pires, il n'y a pas d'apparence de tout. Donc, pas de mention de caste. Donc, on a ici quelque chose qui me semble assez intéressant, c'est-à-dire que le mot « caste » ou « caste » n'est pas du tout la catégorie qu'on utilise tout de suite pour aborder l'Inde. C'est quelque chose qui va venir avec le temps. Et là, on est toujours dans ce cadre, on peut se demander, s'agit-il de traduction, d'invention, de superimposition, de quoi s'agit-il? Alors, bien sûr, il y a une autre question qu'on peut soulever, qui, par exemple, pour tous ces termes-là, il y a quoi comme mot indien qui peut correspondre? Et bien sûr, on sait qu'il y a au moins deux possibilités. Il y a la possibilité de ce qu'on appelle varna, qui correspond plus à une idée de couleur, et qui est un mot très ancien. Et puis, on a cet autre mot, jati, en tamoul jati, qui est un mot qui veut dire tout simplement catégorie ou façon de classer. Alors, regardons donc Duarte Barbosa. Voici un passage de son texte. Dans ce royaume de Narsinga, c'est donc Vijayanagar en Inde du Sud, il y a trois lois de gentil, 13 leis de gentil. Et chacun d'eux a une loi très distincte à elle-même, et en plus, leurs coutumes sont très différentes les unes des autres, principalement celles des rois, grands seigneurs, chevaliers et hommes d'armes qui peuvent se marier, comme je l'ai dit, avec autant de femmes qu'ils veulent et peuvent maintenir. Leurs enfants héritent leurs biens. Les femmes sont obligées, selon une coutume très ancienne, quand leur mari meurt, de se brûler vives avec leur cadavre. Vous voyez, hein, on a déjà le topo, c'est présent. Mais la catégorie qui est utilisée, c'est la catégorie donc, de loi, pas de caste. Alors, dans cette collection d'images que je vous ai montrées en quelques exemples, c'est une collection d'ailleurs assez intéressante qui se trouve aujourd'hui à Rome. On l'appelle souvent le Codex Casanatense parce qu'il se trouve dans la bibliothèque du cardinal Casanatense à Rome. C'est un ouvrage qui, manifestement, a été produit par un peintre ou plusieurs peintres indiens. Maintenant, selon les dernières analyses de Jeremiah Losty, ça serait des peintres venant soit du Gujarat, soit de Mandu, en Inde centrale, mais avec un commanditaire portugais. Donc, vous voyez, un portugais qui décide qu'il veut avoir une espèce d'album ethnographique portant sur l'Inde et qui va donc embaucher un peintre indien pour produire cette représentation. Et là, vous voyez qu'il y a ces espèces de représentations qui sont censées être typiques des gens différents. Et là encore, le mot « caste » apparaît que deux fois dans ce texte. Hein. Il y a normalement, le mot de préférence ici, ce n'est pas « loi », c'est « gente », « gens ». Donc, à chaque fois qu'on a une catégorie ethnographique, on dit « gente » qui se chama, les gens qui s'appellent, etc., etc. Là, vous voyez qu'il y a ces scènes, soi-disant, de la vie quotidienne. Des chars qui vont transporter les femmes de la société gujarati. Et là, c'est parmi les rares images où il y a le mot caste, c'est utilisé pour démontrer une espèce de cérémonie particulière où on est en train de, pas de brûler, mais d'enterrer la femme de quelqu'un qui est mort. Donc, vous voyez le mari qui est ici mort, et il y a la femme. On a l'impression que le peintre est un peu confus parce qu'il y a aussi des flammes sur la tête de cette femme. Donc, apparemment, il n'était pas décidé s'il fallait miser sur l'aspect enterrement ou sur l'aspect crémation. Donc, il a décidé de faire les deux. Mais on dit ici « mulher da casta dos almocreves ». Donc, ça veut dire de la caste des âniers. Hein? C'est parmi les rares usages qu'on trouve dans ce texte. Mais à la fin du 16e, et surtout dans la deuxième moitié, petit à petit, le mot caste va devenir le mot-clé. Et donc, pas seulement va devenir le mot-clé, mais va déplacer tous les autres mots. Et donc, le mot caste devient tellement important qu'il a tendance de vider le champ de représentation et les autres mots vont disparaître progressivement. On trouve ça surtout dans ce texte écrit par un Augustin, Agostinho de Azevedo, qui était soldat puis est devenu prêtre et qui a écrit ce texte dans lequel il parle, vous voyez ici, il parle de la religion. Il commence à utiliser le mot « religion », ce que n'était pas si commun que ça dans la première moitié du XVIe siècle. Et en plus, il donne l'impression que tous les gentils de l'Orient ont, comme il dit, une seule opinion. Donc, il va tenter de ramasser la diversité des croyances et dire que derrière ça, il y a une seule croyance. Mais là, dans ce texte plus élaboré, il va nous dire également qu'il y a, dans tout l'Orient, il y a quatre castes qui sont la base de tout, et il cite un texte, mais c'est un faux texte qui n'existe pas. Et selon un texte intitulé, il dit « Jadigal Totan », ça veut dire « Jadigal Totam », ce que veut dire « le verger des castes ». Donc, selon lui, c'est une espèce de texte, comme il dit, qui est leur livre de noblesse, qui est un livre qui donne les règles pour toute la société. Et puis, il nous donne les quatre castes qui sont partout. Donc, premièrement, la caste des Raya, qui sont comme les Goths en Europe, qui sont les hommes d'armes. Puis, il y a les Brahmins, bien sûr. Puis, il y avait les agriculteurs, et il utilise le mot tamoul « velalar », balala, qui sont les agriculteurs, les lavradores. Et puis, finalement, il y a les marchands. Et là encore, il utilise le mot tamoul « chetti », chatting, que vous voyez ici. Et ici, vous avez donc le moment, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, quand la caste devient le concept maître. Et ça devient le concept maths, pas seulement parce que Anne Augustin a décidé d'écrire ça dans son petit texte obscur, c'est parce que cet Augustin, en fait, représente quelque chose, un mouvement, il représente, en fait, une opinion qui devient très répandue parmi pas seulement tous les missionnaires, mais plus largement. Et ce texte-là n'aurait peut-être pas eu tant d'importance si, en fait, il n'avait pas été plagié par le chroniqueur officiel. Donc, Diogo de Couto, le chroniqueur officiel, le successeur de João de Barros, dans la décade quinte d'Asie, hein, bah donc, vous voyez, reprend textuellement le texte d'Agostinho d'Azevedo, hein, « En todo este Oriente, há quatro castas que precedem a todas as mais », etc., etc. C'est exactement le même texte. Et une fois que Couto a mis dans son texte, ça devient la référence, c'est cité dans tous les dictionnaires du XVIIe, du XVIIIe siècle, comme la définition de base de ce qu'il faut comprendre pour analyser la société indienne, c'est-à-dire la société indienne est une société de castes, et voilà, il y a quatre castes, et ce sont les quatre castes. Bien sûr, on peut revenir sur la question saïdienne, c'est-à-dire, si vous regardez la manière dont ces choses viennent de rentrer dans le savoir des Occidentaux, on voit qu'il ne s'agit pas d'invention pure et dure. Mais en réalité, si on regarde les textes indiens, ça c'est le texte classique auquel aucun des Portugais a pu accéder au XVIe siècle, ça c'est les lois de Manu, c'est le Manu Dharmashastra, hein, dans une traduction du début du XIXe siècle, il dit en effet hein, qu'il y a les quatre classes. Hein. Vous voyez que le traducteur du début du XIXe siècle s'est gardé lui aussi de l'utiliser le mot caste. Et il y a la race humaine qui a quatre ces castes, les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas et les sudras. Mais regardez aussi que depuis le départ, il dit qu'il y a les classes primitives, il y a les classes nées du mélange des premières. Donc déjà, dans ce texte sanskrit venant de l'Inde classique, on admet que l'idée des quatre castes, c'était une idéalisation. La réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est éventuellement, les Portugais auraient pu traduire ce texte et arriver plus ou moins à la même conclusion en confondant une vision donc normative avec la réalité qu'ils voyaient sur le terrain. Mais en réalité, ils n'ont pas fait la traduction, ils sont passés par la voie orale et en passant par la voie orale, bien sûr, ils ont aussi transformé ces quatre catégories venant de sanskrit dans quatre catégories venant de tamoul, qu'on voit donc avec les mots qui sont utilisés. Donc, pour continuer dans la semaine prochaine, je vais tâcher de vous démontrer comment, en effet, ces deux approches des Portugais, à la fois la construction d'une histoire et, de l'autre côté, la construction d'une ethnographie, s'est transformée à la fin du XVIe et au XVIIe siècle et comment, en fait, les choses deviennent beaucoup plus compliquées avec l'arrivée, enfin, des autres Européens au XVIIe siècle. Tout d'abord les Anglais et les Néerlandais, puis les Français, et avec la création des niveaux et des superpositions des discours nationaux qui se croisent, qui sont en conversation quelque part, mais qui vont aussi produire quelques contradictions qui deviennent donc aussi des ressources pour la transformation donc, de cette image de l'Inde. Je vous remercie.
C'était le cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle, le 2 mai 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Sanjay Subramaniam. Réalisation Philippe Baudouin, présentation et coordination Myril Moneghetti. Demain, nous poursuivons en compagnie de Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde à l'époque moderne. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.